le fruit de l'esprit, la paix. Voilà le troisième fruit de l'esprit pour ce matin. Nous avons vu l'amour, la joie. C'est le troisième, aujourd'hui, c'est la paix. Alors, quand on réfléchit un petit peu à la paix, à ce mot paix, eh bien, on regarde un petit peu ce qui se passe dans le monde et on s'aperçoit que chaque pays dans ce monde a des diplomates. Ces diplomates, ce sont des personnes qui ont souvent fait des hautes études. Elles sont très bien formées et elles sont même très bien rémunérées, ces personnes. Elles voyagent à travers le monde, elles rencontrent souvent les élites, et pas dans des petites maisons qui font 150 mètres carrés, mais dans des grands palaces, bien souvent, pour ne parler que à l'extérieur de ce pays. Bien souvent, ces personnes font de grands banquets, pardon, organisent toutes sortes de situations là pour garder, je dirais, de la diplomatie, pour garder un dialogue, pour créer ce qu'on appelle une ambiance pour maintenir la paix entre pays. Qui n'a pas entendu les relations tendues entre la France et l'Italie? Alors j'en parle parce que je suis d'origine italienne, mais en ce moment ça ne va pas très bien entre la France et l'Italie. Et ce n'est pas une histoire de football, hein. Cette affaire-là. Qui n'a pas entendu des tensions entre la France et l'Amérique il y a quelque temps en arrière? On a besoin, n'est-ce pas, de ces professionnels de la paix, de ces diplomates de la paix qui, bien sûr, sont là pour gérer, pour cultiver les relations entre les pays, pour négocier, pour essayer d'arriver, je dirais, à trouver ensemble la paix dans le sens politique, historique, sans froisser ni se fâcher avec quelqu'un d'autre. C'est pas simple, n'est-ce pas, cette affaire de paix. C'est tout un art. Et quand on voit que certains élites en France ont fait l'ENA ou d'autres écoles pour maintenir la paix, je me dis c'est une certaine gestion, je suppose, et bien souvent, certaines situations se règlent à côté de petits fours, bien spéciales, faits par les grands cuisiniers rénommés de ce monde. Alors, à notre petit niveau, comment gérons-nous cette affaire de paix ensemble? Parce que si dans ce monde on a besoin d'un diplomate pour gérer la paix, est-ce que dans notre couple, est-ce que dans notre famille, est-ce que dans nos vies de tous les jours, nous faisons appel à un diplomate? Allô, j'ai besoin de toi pour venir gérer mon conflit dans ma maison, dans ma famille. Je pense pas qu'on ait besoin d'un diplomate, mais à notre niveau, on s'aperçoit que une parole dite peut tout chambouler. Une attitude faite avec quelqu'un peut tout détruire, une relation. Un geste, une parole donnée à un moment donné, et tout est cassé dans notre manière de vivre. Nous pouvons, dans nos relations ensemble, construire ou détruire une relation. On peut semer la paix ou on peut semer la guerre. On peut vivre l'unité ou on peut vivre la zizanie. On peut vivre dans l'harmonie comme on peut vivre aussi dans la division. Être un homme et une femme de paix n'est pas donné à tout le monde. Et nous le savons bien, vous savez, quand on vit des moments difficiles dans notre couple, au sein d'une famille de Dieu, ou quand on vit un moment difficile dans notre travail, qui n'est pas allé un jour dans son lieu de travail avec la boule au ventre? Parce qu'il y avait là un chef qui était tyrannique ou qui est tyrannique et qui empêche d'avoir la paix. l'absence dans un foyer ou dans un travail, eh bien, ça a des effets sur la santé physique, psychologique, et même spirituelle parfois. Et je pense qu'on a besoin vraiment de prendre au sérieux cette affaire de paix dans notre existence. Combattre la paix est une arme qui est puissante. Si notre monde envoie des diplomates, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on devrait aussi employer toute notre énergie pour garder la paix les uns avec les autres, pour éviter l'angoisse, pour éviter l'anxiété, pour éviter l'agitation dans nos vies. Eh bien, nous devrions mettre tout en place pour conserver la paix. La définition du dictionnaire du mot paix, sérénité, calme, absence d'agitation. Voilà la définition du mot paix. L'Empire romain que vous connaissez au travers de la parole de Dieu, on en parle beaucoup dans le Nouveau Testament, l'empereur romain, il y a très longtemps, pour essayer d'avoir la paix dans ses villes et villages, eh bien, ils ont mis ce qu'on appelle un gardien de paix, ce que nous appelons aujourd'hui la police municipale. Eh bien, ça existait grâce aux Romains. Ils pensaient que pour éviter l'agitation, eh bien, il fallait une police municipale qui existe encore aujourd'hui. Alors, nous avons besoin, n'est-ce pas, de la paix. Le monde a besoin de la paix. Nos vies ont besoin de la paix. L'Église a besoin de paix aussi. Alors, nous allons regarder, si vous voulez, un petit peu dans la Bible, comment ce mot se trouve dans la Bible et comment il a été employé. Tout d'abord, en hébreu, puisque vous avez dans la Bible l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le mot c'est shalom. Vous connaissez ce mot. Mais savez-vous la signification de shalom? C'est un mot qui est employé aujourd'hui, une formule politesse. Si vous allez en Israël, tout le monde va vous dire shalom quand vous rentrez dans un endroit, comme si nous on disait bonjour à quelqu'un. Eh bien, le politesse en Israël, c'est de vous dire shalom. Eh bien, la signification littérale du mot shalom, c'est es-tu complet. C'est-à-dire que quand un hébreu vous dit shalom, eh bien, il vous dit es-tu complet. Littéralement, il dit « Est-ce que tu vas bien dans tous les plans ?» Quand il vous dit « Shalom », il vous dit « Est-ce que tu vas bien dans le sens physique, dans le sens psychologique et dans le sens spirituel » C'est-à-dire que le mot « Shalom » englobe tout ça. Quand on vous dit « Shalom », eh bien c'est « Est-ce que tu vas bien physiquement ? Est-ce que tu vas bien spirituellement ? Est-ce que tu vas bien psychologiquement ?» Nous, en France, on a une petite formule quand on dit bonjour, c'est « Comment vas-tu ?» Et bien souvent, la réponse, qui est aussi vague et impersonnelle que le « Comment vas-tu ?», eh bien, on répond bien souvent « Ça va ». Et dans cette réponse « Ça va », eh bien, ça laisse, je dirais, la porte fermée à toute autre discussion. Il faudrait que nous inventions un mot en français pour poser un petit peu plus de questions dans le sens « Comment va ta santé ?» On a d'autres formules, n'est-ce pas? On dit « Comment ça se passe pour ta famille ?» Ça, c'est, je dirais, mais le temps ensemble, ce serait indéterminable. C'est-à-dire que « Bonjour, comment tu vas ?» Ça va, en 2 secondes, l'affaire est dite et elle est mise dans le sac. Mais imaginez que s'il fallait dire « Comment ça va ? Je vais bien » et puis on continuerait, et ta santé, et ta famille, et ton stress au travail, est-ce que ça va bien ? On passerait des heures, n'est-ce pas, ensemble. Que le mot « shalom » résume tout. quelque part, les Israéliens ont compris que le mot shalom, ben, ça comprend tout, dans l'aspect spirituel, dans l'aspect psychologique et dans l'aspect, je dirais, même physique. Le mot shalom comprend tout. Pour illustrer un petit peu cette affaire du mot shalom, alors je ne suis pas là pour réinventer le vocabulaire français. Il y a des spécialistes, des dictionnaires, mais quelque part on devrait trouver un mot, n'est-ce pas, pour définir un petit peu quand tout va bien ou quand tout va mal. Quand on construit une maison, quand on arrive à la fin de la construction, ça se perd, c'est une tradition qui se perd. Mais en règle générale, on invite tout le monde. J'ai fini de construire ma maison et on fait ce qu'on appelle la crémaillère. Donc on met le champagne, on met les gâteaux, on met les petits fours et on invite tout le monde à la maison en disant voilà, tout est terminé, tout est complet, tout est fini. J'ai les clés. J'ai les clés pour rentrer dans ma maison, c'est terminé. On peut maintenant boire le champagne. Cet aspect de shalom, n'est-ce pas, c'est tout à fait l'idée que nous trouvons dans la parole de Dieu. Tout est terminé, tout est complet. Vous avez une deuxième illustration qui explique bien cet aspect de paix entière dans la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est, vous savez, la vieille photo de mariée. Quand on vous demande gentiment aux mariés d'aller sur un escalier et puis d'apporter toute la famille, les frères, les sœurs, les tantes, la mère, le père, le grand-père, la grand-mère, et que tout le monde est sur l'escalier et que le photographe vous dit maintenant c'est le moment de sourire. Eh bien, la belle photo que vous avez illustre cette idée du mot shalom. Tout est complet. Tout est terminé. Eh bien, nous avons besoin de comprendre cet aspect du mot shalom dans notre existence, dans notre vie. Tout est complet en Christ. Tout est accompli en Christ. Et cette paix, il n'y a que Dieu qui peut la procurer. Quelques pensées par rapport à ce mot paix dans la Bible. Dieu est un Dieu de paix. Vous avez cette expression qui revient souvent dans la Bible. J'ai pas pu prendre tous les textes, mais vous avez cette expression, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Voilà un petit peu comment la Bible illustre l'effet de Dieu, c'est-à-dire ce qu'il est dans sa personne. On dit même que Dieu a un attribut. Juge, chapitre 6, verset 24, il est le Dieu de paix, nous dit la parole de Dieu. Voilà quelque chose que nous devons cultiver, que Dieu a cultivé dans la création et que nous devons aussi cultiver. Si vous avez lu les épîtres qui existent, Galates, Éphésiens, Philippiens et Corinthiens, vous avez l'apôtre Paul qui commence toujours ses lettres en disant que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont des expressions que Paul aimait mettre dans l'introduction de nos lettres. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu des lettres, vous avez sûrement reçu des lettres chez vous. Les impôts n'ont pas cette formule à vous donner que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Vous devez payer les impôts. C'est pas comme ça, hein. Ça marche pas comme ça. La formule n'est pas comme cela donnée. Mais si Paul emploie cette formule, c'est que dans l'église locale de l'époque, que ce soit à Philippe, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Galates, que ce soit l'épître aux Corinthiens, eh bien, il y avait des problèmes, des conflits. Et Paul aimait mettre cela en avant pour dire, écoutez, vous avez Jésus-Christ, la grâce et la paix doivent vivre dans l'église locale. Et pour comprendre un petit peu, nous sommes en ce moment dans l'étude de la Bible, dans le fest de l'église de Philippe, vous avez deux personnages dans cette église, un se nomme Hérodite, l'autre se nomme Saint-Tiche. dans l'épître de Philippe, donc Philippiens, chapitre 4, verset 2, où nous voyons que Paul est obligé de les reprendre, ces deux personnes-là, parce qu'elles étaient en conflit toutes les deux, et que ça n'allait pas au sein de l'Église. Alors bien sûr que toute la spiritualité de ces anciens qui avaient là, les diacres et les diaconesses, avaient besoin de maintenir l'ordre et la paix dans ces églises. C'est exactement la même chose aujourd'hui dans notre monde. Nous sommes centrés sur le Christ, nous voulons que notre vie soit centrée sur le Christ et nous voulons maintenir l'ordre et la paix au sein de l'Église. Dire que tout est parfait à l'église de Marolles-sur-Seine, je pense que c'est se bercer d'illusions. La paix, d'abord, doit être centrée sur Dieu, ensuite elle doit être centrée sur Jésus-Christ. Jésus doit être le centre de notre paix. Après tout, il est dit dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, qu'il est le prince de la paix, en parlant de Jésus. Et je voudrais juste vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 14 à 18. Jésus est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix et la réconcilier, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix en vous qui étiez loin, et la paix de ceux qui étaient près, car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Donc Paul est en train de rappeler que notre paix doit être centrée sur le Christ. Nous devons, grâce à lui, nous avons été réconciliés avec Dieu. Le mur de séparation qui était là, qui nous empêchait de continuer, eh bien, grâce à Christ, grâce à son annonce, nous avons bien sûr été réconciliés avec Dieu. Il nous a fait nouvelle créature. Et en Christ, aujourd'hui, nous sommes un enfant de Dieu. Une autre caractéristique, c'est que la paix est disponible. La paix de Dieu est disponible. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Nous avons la possibilité d'avoir cette paix dans notre cœur. Nous avons ce libre accès avec notre Seigneur. Nous pouvons avoir une paix constante dans notre vie. Je suppose que vous avez tous Internet dans la maison. Quand ça marche, c'est formidable. Hein? Quand on est déconnecté, alors là, c'est la panique à bord. Hein? Surtout qu'aujourd'hui, notre État nous demande de tout passer par Internet. Il y a des gens qui n'ont pas Internet dans ce pays parce qu'ils ne sont pas connectés. Hein? Quand tout marche, tout va bien. Il m'est arrivé de voyager comme vous. Et la première question que je me pose quand j'arrive dans un hôtel, est-ce que vous avez la connexion Internet? Est-ce que vous avez la Wi-Fi? Si vous avez la Wi-Fi, c'est une question qu'on me pose régulièrement ici à Marolles-sur-Seine. Est-ce que vous avez la Wi-Fi? Oui. Église de Marolles. Si vous marquez ça, vous avez la Wi-Fi, donc vous pouvez être connecté. Alors, connecté, oui, mais pas pendant le culte. Après le culte, si vous voulez, avant le culte, si vous voulez, mais pas pendant le culte. Donc la connexion avec Dieu est possible là où c'est que nous nous trouvons. En réalité, c'est nous qui coupons les fils avec Dieu. Dieu est toujours connecté avec vous. Là où c'est que vous êtes toujours connecté. C'est nous qui cassons. C'est nous qui coupons les fils avec Dieu dans la connexion. C'est nous qui nous séparons de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce sont nos péchés qui nous coupent la relation avec Dieu. C'est-à-dire que si nous n'avons plus de connexion, eh bien nous avons obligé d'employer une reconnexion avec Dieu. C'est-à-dire que si nous coupons les fils, eh bien nous sommes automatiquement déconnectés. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Il y a des fois, Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que nous coupons les fils. Dieu parfois ne vous écoute pas. Je suis en ce moment, depuis le début de l'année, peut-être comme vous, en train de méditer la parole de Dieu. Alors je la médite, j'ai repris à partir du livre de la Genèse. En ce moment, je suis dans la période des rois, avec David, Salomon, et je me dis, mais c'est Saül avant lui, mais je me dis, quand je regarde ces rois, eh bien certains rois étaient connectés, et puis certains rois n'étaient plus déconnectés. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont désobéi à la parole de Dieu. Saül s'est déconnecté tout seul. Lui n'avait pas besoin de se déconnecter. Dieu l'avait choisi à un moment donné, mais un bon départ, une mauvaise fin. Et c'est lamentable. Quand on regarde l'histoire de Saül, c'est lamentable. David était choix de Dieu. J'ai trouvé un homme selon mon cœur, nous dit la parole de Dieu. Tout allait bien. David, un bon démarrage, et il a continué pendant très longtemps avec Dieu. Tant qu'il a consulté Dieu, tout allait bien. Au moment où il a commencé à se déconnecter de Dieu, ça a été la catastrophe. Il s'est déconnecté de Dieu avec Bathsheba, en faisant l'adultère. Il s'est déconnecté littéralement de Dieu. La Bible nous dit qu'il a même été un meurtrier en éliminant Uri le Hittite, donc le mari de Bathsheba. Il a envoyé au front, il a mis devant, parce que tout simplement, à un moment donné, David s'est déconnecté de Dieu. Voyez-vous, nous voyons dans la parole de Dieu que Dieu ne veut pas se déconnecter de nous. Dieu veut que nous soyons toujours en situation de paix dans notre cœur, toujours en situation de connexion. Du moment que nous sommes proches de Dieu, eh bien Dieu sera toujours proche de nous. Parce que en Christ, nous pouvons être dans la paix si nous allons le voir, si nous nous repentons, si nous faisons pardon, nous pouvons, la Bible nous dit que nous pouvons retrouver la paix avec le Christ. Alors comment avoir la paix au quotidien? Eh bien la Bible nous dit clairement, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je relis ces versets. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière et les supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment garder la paix en Jésus-Christ? Je voudrais juste vous donner une information. Le mot « garder » dans la Bible, ici, dans ce texte, c'est le mot que nous trouvons en grec « parousie ». C'est un terme militaire, c'est-à-dire qu'il parle de vigilance extrême, une armée en marche autour de la ville pour protéger. C'est-à-dire que quand Dieu dit qu'il gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Dieu a campé tout autour de vous une armée céleste. Ben, réfléchissez un petit peu à votre quotidien. C'est pas merveilleux de savoir que Dieu plante autour de vous une armée céleste pour garder votre intelligence, votre cœur et votre pensée. C'est pas merveilleux, ça. Dans n'importe quelle situation, je sais qu'il y a une armée céleste autour de moi. Il n'y a pas besoin de m'agiter. Il n'y a pas besoin de paniquer. Il n'y a pas besoin, je dirais, de perdre pied dans les situations. Dieu campe et protège ton cœur autour de toi. Cela nous donne, n'est-ce pas, du réconfort. Ça nous encourage à construire dans notre vie d'être un messager de paix. Quelque part, il y a une volonté dans notre cœur. Quand on voit heureux ceux qui procurent la paix, rechercher ceux qui contribuent à la paix, rechercher la paix avec tous, notre responsabilité, elle est triple. C'est, nous devons être un homme et une femme de paix, nous devons maintenir la paix, et nous devons apporter la paix aux autres. Waouh! Quelle responsabilité! Notre foyer irait beaucoup mieux avec des pensées comme cela. Nos vies de tous les jours iraient beaucoup mieux avec des pensées comme cela. Notre vie d'église serait un beau fleuve et long tranquille avec une pensée comme cela. Parfois, c'est vrai que nous devons semer la paix et non pas semer le stress. Nous devons semer ce que Dieu veut que nous semions, la paix dans notre vie de tous les jours. Et cela nous aidera sûrement dans nos conflits, dans nos décisions, celles qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. Porter la paix, c'est aussi annoncer l'évangile qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle et qui publie la paix. Si vous portez la paix autour de vous, si vous portez la bonne nouvelle, pardon, autour de vous, vous avez de jolis pieds. C'est ce que la Bible dit. C'est pas moi qui le dis. Est-ce que ça veut dire que si vous ne portez pas la bonne nouvelle, vous n'avez pas de jolis pieds? J'ai pas dit ça. Mais la Bible dit que celui qui porte la bonne nouvelle, eh bien, c'est quelqu'un qui publie la paix. Et ce monde a besoin de paix. Ce monde qui est désordonné a besoin de paix. Notre voisin a besoin de paix. Là où c'est que le Seigneur vous a placé, vous devez être un messager de paix. Là où c'est que le Seigneur vous a placé, vous devez apporter la paix. Vous devez apporter la bonne nouvelle. Vous devez rebondir sur cet aspect que la paix est quelque chose d'important. Autant dans votre couple de tous les jours, la paix est quelque chose d'important. Dans votre église, la paix est aussi importante. Dans votre foyer, la paix est importante. Dans votre lieu de travail, la paix est importante. Alors ce mot est bien souvent pas très bien compris par nous, parfois chrétiens. Parce que vous savez, on aime parfois se rebeller. On aime parfois, n'est-ce pas, l'ancienne nature prend souvent le dessus. Mais nous devons être des ambassadeurs de paix. Nous devons être des messagers de la paix. Et dans tous les sens du domaine de notre vie de tous les jours. Paul priait pour les chrétiens de Rome et il leur disait ceci, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez plus d'excuses. Votre pasteur vous a dit clairement aujourd'hui que vous devez vivre dans la paix. Votre responsabilité, à partir du moment que vous allez sortir de cette porte, c'est de vivre dans la paix. Alors, vous allez voir, quand vos enfants vont redescendre, ça va être difficile. Mais ce n'est pas uniquement pour vos enfants. Hein. Ça peut être le mari, ça peut être votre femme, ça peut être votre chef dans le travail, ça peut être toutes sortes de situations. À vous d'être le messager de paix. À vous d'être l'ambassadeur de paix, comme le Seigneur nous le montre dans la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de paix et il n'est pas un Dieu de désordre. Donc nous devons aspirer à cette paix dans le quotidien de notre vie. Amen. Amen.